Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. L'allergie est décrite comme bizarre par ses proches et notamment par son médecin traitant. Le principal opposant russe, Alexeï Navalny, est hospitalisé depuis hier en Russie. Le tout dans un contexte tout aussi singulier. Près de 1400 manifestants ont été arrêtés ce week-end à Moscou. Nous irons sur place.
Et puis nous rejoindrons ensuite notre correspondant à New York. Donald Trump a insulté les habitants de la ville de Baltimore hier, ainsi qu'un élu noir. Des propos racistes assumés par le président, vous l'entendrez.
Le Sri Lanka renvoie en Grande-Bretagne plus d'une centaine de conteneurs. Arrivés il y a 2 ans dans un port du pays, ils commençaient à poser un grave risque sanitaire. Nous vous expliquerons pourquoi.
Dans ce journal encore, analyse de la réforme de l'assurance chômage. Le texte a été publié au journal officiel hier, en plein cœur de l'été.
Et puis nous nous baladerons en Islande, au milieu d'une forêt replantée par les autorités. Cela au nom de la biodiversité et du climat. Leur point commun, défendre la démocratie dans un pays dirigé par le même homme depuis 20 ans. Dans la Russie de Vladimir Poutine, les opposants sont inlassablement inquiétés, traqués, poursuivis. Ce samedi, lors d'un rassemblement pour demander des élections libres, près de 1400 personnes ont été arrêtées à Moscou, soit plus d'un tiers des personnes présentes lors de la manifestation. Beaucoup ont, face à la pression populaire et internationale, été relâchés hier. Mais dans le même temps, hier, nous avons appris l'hospitalisation d'Alexeï Navalny, le premier des opposants au pouvoir, Léo Vidal-Giraud.
Alexeï Navalny ne fait pas partie des personnes arrêtées ce samedi pendant les manifestations qui ont secoué la capitale russe. Presque une anomalie pour cet opposant habitué des détentions administratives. Mais l'explication est très simple. Ce samedi, Navalny était déjà en prison. Arrêté mercredi dernier, il avait aussitôt été condamné à 30 jours de détention pour organisation d'une manifestation non autorisée. Puis hier, dans l'après-midi, alors que la majorité des détenus de la veille avaient déjà été libérés, la nouvelle de son hospitalisation s'est répandue comme une traînée de poudre dans les médias russes indépendants. D'après ce que l'on sait, à l'heure actuelle, Alexeï Navalny aurait été saisi dans sa cellule par une violente réaction allergique, les yeux gonflés, le visage couvert de plaques rouges. En 43 ans, il n'a pourtant jamais souffert de la moindre allergie, affirment plusieurs de ses proches, qui s'interrogent sur les conditions de sa détention. L'opposant a immédiatement été transféré dans un hôpital de Moscou, mais ses médecins traitants n'ont pas été autorisés à lui rendre visite. Ils racontent avoir dû l'examiner à travers une vitre. D'après eux, l'hôpital dans lequel il se trouve actuellement se comporte de façon ouvertement négligente. Au vu des circonstances et des symptômes d'Alexeï Navalny, on ne peut pas exclure un empoisonnement, affirme-t-il. Les médecins s'inquiètent en particulier pour ses yeux. Cette année, l'opposant avait déjà dû être opéré en urgence après avoir subi une agression dans les rues de Moscou. Atteint au visage par une projection d'un liquide non identifié, il avait failli perdre la vue.
Léo Vidal-Giraud depuis Moscou pour France Culture. Un opposant hospitalisé, d'autres emprisonnés, nous le disions en début d'édition. Le week-end en Russie a donc été violent. Comment expliquer cette sévérité des forces de l'ordre? Nabila Hamel a joint pour France Culture Nicolas Cramayer. Il est responsable du programme Liberté chez Amnesty International France. Et voici son analyse.
Il y a vraiment un nouveau tour de vis sécuritaire du pouvoir dès lors qu'il y a de nouvelles élections. On a vu ces derniers mois et ces 2 dernières années qu'à chaque élection partielle ou locale, il y avait souvent des défaites des candidats du parti au pouvoir ou alors en tout cas de fortes progressions des partis d'opposition. Donc on a l'impression que pour une élection bien évidemment locale, mais qui concerne quand même la capitale, Moscou et Saint-Pétersbourg, il y a la volonté pour le pouvoir de ne tolérer aucune place pour l'opposition. Ce dont on s'aperçoit, c'est ce qui est dit aujourd'hui par un certain nombre de candidats de l'opposition, c'est tout simplement que le pouvoir en place ne souhaite même pas laisser la possibilité à l'opposition de s'exprimer par les voies légales. Alors, on avait déjà eu des exemples auparavant, mais on s'aperçoit que petit à petit, alors que pendant plusieurs années, il y avait une espèce de chape de plomb qui était tombée sur la société civile en Russie, on s'aperçoit que depuis plusieurs mois, il y a eu un certain nombre de victoires dans les rues, des manifestations, des protestations pacifiques qui ont permis de revenir sur un certain nombre de décisions des autorités, qu'elles soient locales ou nationales. Et donc on a l'impression qu'aujourd'hui, le pouvoir a peur finalement que la société civile en Russie, entre guillemets, reprenne du poil de la bête et reconstitue pour lui la même menace qu'elle a pu l'être dans les années 2011-2012.
Et malgré les répressions, notons que l'opposition russe appelle à un nouveau rassemblement samedi prochain. Cette contestation-là dure depuis 8 semaines, le week-end là aussi, et là aussi pour réclamer plus de démocratie. À Hong Kong, les manifestants ont essuyé hier des tirs de gaz lacrymogène et de balles de caoutchouc de la part de la police. L'usage l'usage de la force s'intensifie des deux côtés. Hong Kong est maintenant prise dans un cercle vicieux, déclare une députée pro-démocratie. Il était régulièrement en désaccord avec le président américain et notamment sur le dossier nord-coréen. Le directeur du renseignement outre-Atlantique, Dan Coats, quitte son poste. C'est Donald Trump lui-même qui l'annonçait hier soir. Le président américain qui assume, jour après jour, une campagne de haine dans la course à la présidentielle. Il s'en est pris ce week-end à un élu noir du Congrès. Ce représentant démocrate de la ville de Baltimore, très respecté, avait dénoncé les conditions de détention des migrants à la frontière avec le Mexique. Donald Trump lui a donc répondu sur Twitter et de la pire des façons, Loïc Loury.
Un désordre dégoûtant, infesté de rats, un endroit dangereux où aucun être humain ne voudrait vivre. Voilà comment Donald Trump dépeint Baltimore. Peut-être, dit-il, Kelly-Jah Cummings devrait y passer plus de temps afin d'aider à nettoyer cet endroit crasseux. Baltimore, dans le Maryland, est une ville industrielle minée par la drogue et la violence, mais c'est aussi une ville majoritairement noire, d'où l'indignation suscitée par les propos du président. Victor Blackwell, un présentateur de CNN, a craqué en direct.
When he tweets about infestation,
lorsqu'il parle d'infestation, il parle des Noirs et des Métis. Le président dit à propos du district d'Elijah Cummings qu'aucun être humain ne voudrait y vivre. Vous savez qui y a vécu, monsieur le président ? Moi. Et beaucoup de mes proches y vivent encore. Oui, il y a des problèmes à régler, mais les gens sont fiers de leur communauté.
Donald Trump, lui, se défend. Rien de raciste, dit-il. Elijah Cummings a simplement fait du très mauvais travail. Les démocrates, poursuit le président, ont fait si peu pour les formidables afro-américains de notre pays. En quelques semaines, c'est en tout cas la seconde fois que Donald Trump attaque des élus de couleur en utilisant une rhétorique raciste. De quoi galvaniser sa base à l'approche de la présidentielle, de quoi diviser également un peu plus le pays.
Le bilan est déjà très lourd et il pourrait encore évoluer. Au Nigeria, au moins 65 personnes ont été tuées samedi dans le nord-est du pays. Les deux attaques ont été commises par des combattants soupçonnés d'appartenir au groupe djihadiste Boko Haram. 21 personnes ont été tuées alors qu'elles revenaient d'obsèques. 44 autres ont ensuite été abattues alors qu'elles se regroupaient pour se défendre. Le président nigérian a demandé à l'armée de pourchasser les auteurs. Précisons que les habitants forment de plus en plus des groupes d'autodéfense dans le pays pour se protéger des attaques djihadistes. Ils se plaignent de l'inaction de l'armée. Partons maintenant au Sri Lanka où les autorités vont renvoyer 111 conteneurs entreposés depuis 2 ans maintenant dans le port de Colombo. Des conteneurs qui appartenaient à la Grande-Bretagne et qui contiennent des déchets biomédicaux toxiques, Sébastien Farcy.
Officiellement, les conteneurs exportés de Grande-Bretagne contiennent des matelas. En réalité, à l'intérieur se trouvent des déchets médicaux, seringues usagées, morceaux de tissu humain et même des organes amputés. Cela fait près de 2 ans qu'ils sont entreposés sur le port de Colombo. Ces matières organiques sont donc en train de pourrir et pourraient s'écouler vers les ruisseaux voisins ou dans l'océan Indien, posant ainsi un grave risque sanitaire. Selon un responsable du port cité par un journal sri-lankais, ces produits dangereux exportés illégalement de Grande-Bretagne devait être réexporté, peut-être vers un pays asiatique voisin, comme les Philippines ou la Chine, dont les gouvernements se plaignent de plus en plus d'être devenus la poubelle des pays occidentaux. Londres a du reste lancé une enquête sur l'origine de ces déchets biomédicaux. Son service public de santé peine en effet depuis des années à traiter ces restes. L'entreprise jusqu'alors en charge du traitement de ces déchets vient de perdre le contrat pour leur exploitation, car elle ne serait justement plus arrivée à s'en débarrasser.
Le message de Matteo Salvini, ministre italien de l'Intérieur. Son message a-t-il été entendu par Bruxelles ? En tout cas, la Commission européenne dit être en contact avec des pays membres de l'Union pour recevoir les migrants. Plus de 130 migrants, toujours bloqués à bord d'un bateau humanitaire dans le port d'Augusta, en Sicile. L'Italie attend depuis 4 jours un accord de l'Union avant de les laisser débarquer.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Le Coq-Réal. En France, maintenant, les nouvelles règles d'indemnisation du chômage ont été publiés au journal officiel.
Et comme annoncé, le texte va modifier la durée minimale de travail exigée pour ouvrir des droits au chômage en France. À partir du 1er novembre prochain, il faudra donc, pour toucher une indemnisation de Pôle emploi, avoir travaillé 6 mois sur les 2 dernières années et non plus 4 mois sur 28. Pour certains, cela favorisera la précarité longue durée. Pour d'autres, en revanche, cette nouvelle réglementation va permettre d'éviter les petits contrats. Bertrand Martineau est économiste, conseiller auprès de l'Institut Montaigne. Il voit, lui, dans cette réforme, une réforme qui va dans le bon sens, il s'en explique.
L'assurance chômage française, il y a eu une dérive ces dernières années qui était que elle devenait un complément de rémunération pour de très nombreuses personnes. Mais jamais les partenaires sociaux n'étaient arrivés à toper sur le sujet. Les syndicats, pour des raisons évidentes, ça diminue les droits de certaines personnes. Et puis les employeurs, parce que les employeurs sont bien contents, en fait, d'avoir une assurance chômage qui intervient non pas pour simplement indemniser des périodes longues, durables de chômage, mais qui deviennent un complément de rémunération pour des salariés qui alternent des périodes d'emploi et de chômage. Donc la modification du mode de calcul du salaire de référence, les différents curseurs qui sont modifiés sur ces sujets, en particulier les droits rechargeables. Il faudra maintenant beaucoup plus de temps, 6 mois, pour recharger les droits contre 150 heures précédemment. Ça fait de très nombreuses années qu'on disait qu'il fallait le faire. Et le système restera, même avec 6 mois sur 24, beaucoup plus généreux que tous les autres pays européens, pour lesquels, en général, ils font 1 an de cotisation pour avoir droit à l'assurance chômage.
L'économiste Bertrand Martineau, interrogé par Diane Berger. Elle veut éviter le chômage pour près d'un millier de personnes. La CGT va présenter aujourd'hui un plan B pour sauvegarder le site de General Electric à Belfort. Le groupe envisage toujours de supprimer des centaines de postes. Nous vivons depuis ce matin à crédit en ce 29 juillet. Voilà que nous avons épuisé toutes nos ressources que produit la planète Terre pour une année. L'ONG WWF appelle cela le jour de dépassement. Ce jour tombait 2 mois plus tard, il y a 20 ans. En 2019, nous consommerons l'équivalent d'1,8 planète. Et voici une preuve de notre surconsommation. En Islande, pour les besoins de l'agriculture, les arbres ont été rasés ces derniers siècles, par les Vikings d'abord, puis par les éleveurs de moutons et autres vaches. On connaît aujourd'hui des paysages de glaciers, de dunes, de volcans. L'Islande est le pays le moins boisé d'Europe. Un plan de reboisement est donc en cours, comme nous le raconte sur place Jérémy Richard.
Armé d'un petit pot de ki, un outil de plantation d'arbres d'origine finlandaise en forme de tube, Reit Oskarsson, responsable de stratégie au service forestier islandais, met en terre des jeunes pins et épicéas. Le sol, vaste étendue du sud-ouest du pays, est composé de sable et de pierres volcaniques.
C'est l'un des pires exemples d'érosion du sol en Islande à basse altitude. Ici, nous prévoyons de reboiser le terrain pour stabiliser le sol et protéger la ville voisine des tempêtes de sable et de poussière.
Recouverte de forêts à plus d'un quart avant sa colonisation par les Vikings qui ont tout rasé, l'Islande est aujourd'hui considérée comme le pays le moins boisé d'Europe. Mais l'île a pris le reboisement à bras-le-corps ces dernières années et fait pousser 3 à 4 millions d'arbres dans des dizaines de serres comme celle de Kvistar, près de Reykjavik. Hólmfríður Geirsdóttir est horticultrice.
À l'origine, ils viennent d'Alaska, mais nous avons maintenant des arbres de 30, 40 ou 50 ans qui donnent des graines. Nous les collectons et les utilisons pour la production de plants.
L'Islande a dû diversifier ses forêts naissantes en important de nouvelles variétés dans un pays où la croissance des arbres est plus lente qu'ailleurs. Le directeur adjoint du service forestier, Aðalsteinn Sigurgeirsson.
Ce qui a principalement nui à la croissance des forêts ici, ce sont les températures basses et la fraîcheur des étés. Mais nous nous rendons compte que cela change à cause du réchauffement planétaire.
Le gouvernement islandais a fait de la forestation l'une de ses priorités afin de réduire de 40% ses émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2030.
Vous connaissez la fable du lièvre et de la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Il lui aura fallu 2 jours pour remporter le Tour de France. Le coureur cycliste Egan Bernal a remporté hier le maillot jaune sur les Champs-Élysées à seulement 22 ans. Il est le premier Colombien à inscrire son nom sur cette course. Lui a inscrit son nom au MoMA de New York, à la Tate Modern à Londres ou encore au Centre Pompidou à Paris. Nous avons appris hier soir la mort de l'artiste franco-vénézuélien Carlos Cruz Diaz. En plus de 70 ans de carrière, cette figure de l'art cinétique a développé d'importantes recherches sur la couleur. Carlos Cruz Diaz avait 95 ans. Le journal de la culture à 8h30 lui sera en partie consacré. Et la météo du jour en couleur ce lundi, c'est assez simple. Météo France prévoit du gris sur le nord-ouest, un gris humide et un ciel bleu, un bleu ciel, tiens, partout ailleurs. Comptez ce matin 13 degrés à Limoges, 14 degrés au Havre, 16 à Paris et Besançon, 21 degrés à Nice. Il fera 24 à 30 degrés cet après-midi du nord au sud.